C'est maintenant le temps de la parole et je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous allons ouvrir les Écritures saintes pour y plonger nos regards et nous comptons sur cet esprit justement que tu as envoyé à la Pentecôte, cet esprit que tu as envoyé dans tes prophètes pour nous conduire et nous faire comprendre, Seigneur, ta parole, ta volonté, qui tu es. Nous te remettons toutes ces choses, Seigneur. Amen. Le jour de la Pentecôte, donc, le jour où l'Esprit Saint a été répandu sur les apôtres. Et on va lire ce passage. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 2. Verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Mais tous ensemble, c'est les disciples. Hein. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit, comme un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à du feu, qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient en extase, hors d'eux-mêmes, et dans l'admiration. Ils disaient, mais voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des bons Galiléens? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Macédoine, la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisin de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois, arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, en se disant les uns aux autres, « Mais qu'est-ce que cela peut-il bien dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Bon, ils sont pleins de vin doux. » Je m'arrêterai là. L'Esprit Saint qui descend sur l'Église choisit de se manifester par ces langues de feu qui se séparent les unes des autres et qui vont se répandre sur tous les croyants. Qu'est-ce que cette manifestation de feu signifie? C'est ce que je veux voir avec vous dans un premier temps. Et ensuite, je vous exhorterai dans cette vie par l'Esprit avec une autre lecture. Et donc, dans un premier temps, on va revenir loin en avant, dans le livre d'Exode. Vous savez que moi, j'aime bien faire des liens entre tous les passages de la Bible. Donc, Exode au chapitre 3. Pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ce feu. Donc, dans Exode au chapitre 3, on retrouve l'histoire de Moïse avant qu'il soit envoyé devant le peuple. Et Exode 3, c'est la rencontre entre Moïse et Dieu. Donc, il habite avec son beau-père qui s'appelle Jéthro. Il a épousé une des filles de Jéthro qui s'appelle Séphora. Et il est devenu berger. Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de son père Jéthro, de son beau-père Jéthro, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, le mont Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas du tout. Moïse dit « Je vais faire un détour pour aller voir ce spectacle extraordinaire. Et pourquoi ce buisson ne brûle-t-il pas ?» L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder directement Dieu. Un deuxième passage que nous allons lire dans le livre de l'Exode, toujours au chapitre 19, qui est le parallèle un peu. Vous savez, Moïse rencontre Dieu au mont Horeb et ensuite il rencontrera. Il emmènera le peuple vivre cette même rencontre à peu près au même endroit. Donc au chapitre 19, c'est le peuple qui, après avoir été libéré d'Égypte, arrive au mont Sinaï. Et Moïse orchestre et prépare la rencontre avec Dieu. Et je lis juste les versets 16 à 20. 19, 16 à 20. Le troisième jour, au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son du cor retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du cor retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à voix haute. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne, et l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Une troisième manifestation à la fin du livre de l'Exode. Donc, malgré tout, Dieu accepte d'habiter au milieu du peuple, donc ils lui font une maison, un temple portatif, le tabernacle. Et au chapitre 40, donc le dernier chapitre du livre de l'Exode, Moïse a fini le tabernacle, il l'a monté intégralement, il l'a consacré intégralement. Et nous lisons simplement les tout derniers versets, versets 33 à 38. Alors Moïse dressa le parvis autour du tabernacle et mit l'autel et mit le rideau à la porte du parvis et ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle à tel point que Moïse ne pouvait pas rentrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la nuée s'élevait, au-dessus du tabernacle, les Israélites partaient, chacun de leur étape. À chacune de leur étape. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle s'élevait. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait du feu aux yeux de toute la maison d'Israël, à chacune de leur étape. Déjà, on voit que dans ces trois lectures, la manifestation, la présence de Dieu sur terre s'accompagne de cette aura, de ce feu qui entoure les choses. On va continuer avec une quatrième lecture dans le livre de Daniel, un prophète, un peu plus loin. Non, pardon, Ézéchiel d'abord, dans l'ordre. Ézéchiel, au tout début d'Ézéchiel. Et Ézéchiel est un prophète juif qui a été déporté à Babylone après la conquête de Jérusalem par les Babyloniens, Nabucodonosor. Et là-bas, en fait, il a une vision. Et la première vision qu'il a, elle est très étrange. Il voit le char trône de Dieu qui quitte Jérusalem et qui va jusque là où les déportés habitent, à savoir à Babylone. Et ce que nous allons lire, c'est une description de ce char. Donc, Ézéchiel 1. La 30e année du 5e, le 5 du 4e mois, comme j'étais parmi les déportés, près du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus une vision divine. Cinquième mois, c'était la cinquième année de la déportation du roi Joachim. La parole de Dieu me fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le fleuve des Chaldéens, près du fleuve Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, il vint du nord un vent, une tempête, une grosse nuée, une gerbe de feu. Bon, déjà là, ça fait écho, hein. Vent, tempête, nuée, gerbe de feu, on a vu ça où ? Au mont Sinaï, en fait. Qui se répandait tout autour une grande clarté. Il y avait comme un éclat étincelant sortant du milieu d'elle, au milieu du feu. Et au centre, encore, apparaît quatre animaux dont l'aspect avait une apparence humaine. Chacun d'entre eux avait quatre faces, quatre ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme ceux d'un veau et leur éclat comme du bronze poli. Je ne vais pas lire tout le truc, juste de montrer que le char de Dieu qui arrive, porté par ces quatre chérubins, il est là aussi environné de feu. Si vous lire toute la description de ce cortège étrange, c'est tout le premier chapitre, et vous allez voir que ça brûle un peu partout. Une deuxième lecture, enfin une cinquième lecture, dans le livre de Daniel. Au chapitre 7. Verset 9. Je regardais, c'est encore une vision prophétique, où Daniel voit un jugement céleste qui a lieu. Je regardais, et pendant que l'on plaçait des trônes, il y avait l'ancien des jours, assis, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine, et son trône était comme des flammes de feu. Et les roues de son trône comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, des myriades se tenaient en sa présence. Et les juges s'assirent, et des livres furent ouverts. Alors, quel peut bien être le sens de ces flammes de feu qui se manifeste à la Pentecôte sur les disciples? Si à chaque fois que Dieu fait une visite sur la terre, à chaque fois qu'un des prophètes a une vision de Dieu, et qu'à chaque fois que ça a lieu, on voit Dieu entouré de flammes, quand Dieu apparaît à Moïse, il se met dans un buisson, et forcément la présence de Dieu dans ce buisson est tellement intense que le buisson brûle. Mais puisque Dieu veut rester dans le buisson, ben il brûle, mais il ne se consume pas. Dieu s'assoit sur un trône, dans la vision de Daniel, et la présence de Dieu est tellement intense que le trône fond. Mais puisque Dieu veut être assis sur le trône ne fond pas. Il est comme fondu, comme en métal rouge, mais il tient. Quand Dieu manifeste sa présence dans le temple, sa présence est tellement intense que si un humain y rentre, alors qu'il n'y est pas préparé, il meurt. Et là, à la Pentecôte, du vent, du bruit, il manque le tonnerre et les tremblements de terre, mais on sent qu'ils ne sont pas loin. Le feu se manifeste. Et où est-ce qu'il rentre? Où est-ce qu'il rentre? En chacun de ses disciples, et pourquoi? Parce que c'est là qu'est le nouveau temple de Dieu. De la même manière que la présence de Dieu se manifestait dans l'ancien temple, par cette flamme de feu ou de nuée qui brillait, Dieu vient habiter son nouveau temple. Dimanche dernier, nous avons parler de l'ascension du Christ. Vous vous rappelez, avec le parallèle que j'avais fait avec le livre d'Esther, le général de Gaulle, etc., comment une personne au bon endroit de pouvoir qui intercède pour nous tourne les choses en notre faveur. Et cette grande conclusion, puisque Dieu, Jésus-Christ est monté au ciel, puisqu'un humain maintenant siège sur le trône de Dieu, Dieu nous est favorable. L'ascension précède la Pentecôte d'une dizaine de jours. Pas sans raison. Parce qu'il a fallu que Christ s'assoie sur le trône, rende Dieu favorable à nous pour qu'il puisse nous envoyer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Et alors, nous ne sommes pas consumés par ce feu divin qui nous habite. Et par rapport à ça, je vais vous lire encore un autre passage que vous connaissez, je pense. On le lit souvent, il est apprécié. C'est la vocation du prophète Ésaïe, donc c'est au chapitre 6 du livre d'Ésaïe. Ésaïe était un prêtre, un grand prêtre même. Et donc il avait la charge de rentrer tous les jours dans le temple, changer les pains, renouveler les lampes à huile, etc. Et puis une fois par an, il rentrait dans le lieu très saint pour reconsacrer le propitiatoire qui était là. Et alors, c'était son tour de rentrer dans le temple. Et il dit ceci, « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine !» de sa gloire, et les soubassements du seuil frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Et alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec une pincette. Et il m'en toucha les lèvres. Et il me dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Donc ce feu qui vient de Dieu ne vient pas toujours détruire, tout cramer, tout purifier. Quand Dieu nous est favorable, ce feu vient nous purifier et nous transformer. À ce propos, c'est intéressant de lire avec cette autre perspective ce texte en Apocalypse 8. On avait lu dimanche dernier ce moment où Christ apparaît sur le trône. On dit « Ah, l'agneau, le lion de Juda arrive !» Et puis en fait, ce n'était pas un lion, c'était un agneau. Et puis il reçoit ce livre de la volonté de Dieu. Et il commence à décacheter tous les sceaux, les sept sceaux de ce livre, et quand il a fini de décacheter les sceaux de ce livre, donc il a... Une fois qu'on a fini d'ouvrir les sceaux du livre, on peut lire le livre. Il se passe un événement intéressant. Je vous lis l'ouverture du septième sceau. Quand il ouvrit le septième sceau dans le ciel, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Et je vis sept anges qui se tenait devant Dieu avec sept trompettes. Et un ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel devant le trône. Et la fumée des parfums montait avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, il le remplit avec le feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et des tremblements de terre. On retrouve exactement la même chose qu'il y a eu sur le mont Sinaï, exactement la même chose qu'il y avait quand le char de Dieu se déplace. Et là encore, un ange qui prend des braises de l'autel et qui les jette sur la terre. Alors on se dit, ah, c'est peut-être une catastrophe naturelle qui a lieu. Oui. Ou alors, comme dans Ésaïe, c'est ce feu qui vient nous purifier. Et peut-être que cet événement-là qui est raconté en Apocalypse 8, c'est la Pentecôte vue du ciel. Ce feu divin qui nous habite, cette présence divine qui nous habite, Dieu qui nous transforme en temple. Dieu qui nous transforme en temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul. Pour faire quoi ? Est-ce que c'est une perspective qui vous parle ? Qu'est-ce qui vient fiche en moi cet esprit, j'ai envie de dire. On a déjà dit plein de choses. Il vient nous connecter à Jésus-Christ, de sorte que la vie de Jésus devienne la nôtre, de sorte que la sainteté de Jésus, sa justice devienne la nôtre, de sorte que le Père de Jésus devienne le nôtre, de sorte que l'héritage de Jésus devienne le nôtre. Et moi, en échange, je lui donne mon péché, qu'il va crucifier à la croix. Mais le Saint-Esprit, c'est plus qu'une connexion Wi-Fi entre nous et Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit créateur de Dieu. L'Esprit créateur de Dieu. À la première page de la Bible, on le rencontre déjà. Non pas au premier, mais au deuxième verset de la Bible, on le rencontre déjà. La Bible commence ainsi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Pas très accueillant comme lieu. Ténèbres, une abîme sans fond, vide, sans forme, sans sens, sans but. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et vous connaissez la suite du récit. L'Esprit de Dieu va transformer ce lieu hostile, absurde, sans sens, vide, mort, ténébreux, en un lieu de vie, en un lieu fécond, en un lieu chargé, rempli de présence, de beauté, de délices. Le même esprit qui a transformé ce monde en un mode de beauté est l'esprit qui vient habiter en vous. Et si lui, il a pu transformer un monde désertique, un monde hostile, un monde ténébreux, un monde absurde, en un monde fécond, imaginez ce qu'il peut faire de vos vies. Imaginez ce qu'il peut faire dans vos âmes. Imaginez ce qu'il peut faire dans vos friches, dans ces parties de vous. Ça fait des années que vous n'arrivez pas à les travailler. C'est en friche. Dans ces parties de vous où tout est mélangé, confus, ces sacs de nœuds que vous traînez, que on traîne depuis tant d'années, qu'on ne sait même plus par quel bout les aborder. On se sent rien que dépassé à l'idée de chercher une issue à cette situation. Ces successions de mauvais choix qui vous ont emmené là où vous ne voulez pas. Ces tranches de vie absurdes qui n'ont pas de sens. L'Esprit qui a donné un sens incroyablement riche, incroyablement profond et complexe à une terre qui était vide, ténébreuse, noire, avec un abîme sans fond, est le même Esprit qui habite maintenant en vous. En vous. Que peut-il se passer? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et pour cela, il faut une chose. Il nous faut tous apprendre à marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, ça ne veut pas dire, bon, j'arrête de réfléchir et je vis tout à l'instinct. Marcher par l'Esprit, ça ne veut pas dire, bon, je ne pense plus au lendemain, je ne fais plus de projet, je vis l'instant présent et... Vous savez, il y a des gens qui font ce pari, ils disent, voilà, pendant une semaine, je dois dire oui à tout ce qu'on me propose. Ils n'ont pas le droit de dire non. Et il leur arrive des choses incroyables, parce que du coup, ils n'ont pas le droit de dire non. Et donc, il y a des gens qui les emmènent dans des situations où ils ne seraient jamais allés d'eux-mêmes. On peut voir des parallèles avec ça. Mais plus simplement, vous avez été renouvelé dans votre conscience. Vous connaissez ce que c'est que la conscience. Mon fils Manois de 10 ans sait ce que c'est que sa conscience. Je lui dis, est-ce que tu entends Dieu te parler? Il me dit, non, non. Et est-ce que tu n'as pas l'impression que des fois, il y a une voix en toi qui te dit si c'est bien ou si c'est mal ce que tu es en train de faire? Ah oui. Et tu l'écoutes? Parfois. Notre conscience a été renouvelée par le don du Saint-Esprit. Je ne dis pas que nous sommes fiables à 100% d'interpréter cette conscience. Je sais que j'avais une décision à prendre pour m'accorder un temps de vacances et je me sentais très culpabilisé à l'idée de prendre ce temps de vacances et je n'ai pas été capable de discerner si cette culpabilité venait de moi, qui par principe ne m'accorde pas grand-chose, ou parce que il y avait le travail, ou parce que pour prendre ce temps de vacances, il aurait fallu que que je pousse les autres quelque part. Des fois, ce n'est pas facile de discerner. Mais ça s'apprend. Et le même esprit qui parle en nous, par notre conscience, est celui qui a inspiré tous ces mots-là. Si j'apprends, si je médite et si j'apprends le ton de sa voix, la façon dont il pense dans les Écritures, j'apprendrai à la reconnaître en moi, cette même voix, et de la suivre, de m'y soumettre, d'y devenir obéissant pour ranger sa vie, pour faire fleurir ses lieux de friche et rendre les choses absurdes pleines de sens et les choses désertes fécondes. Qu'est-ce que ça donne dans nos vies? Pour moi, je vous donne un exemple très concret. J'arrête de boire 5 litres de café par jour. Ça peut commencer par ça, ranger sa vie. Alors je bois du thé. C'est moins drôle. Ça peut être pour moi, j'arrête d'avoir des réponses cyniques auprès de mes enfants, auprès de mon conjoint. Ça peut être, j'arrête de ranger ces courriers que je n'arrive jamais à traiter dans ce petit coin de mon bureau où ils s'empilent, mais dès que je le reçois, je prends 5 minutes pour le traiter. Ça peut être toutes ces choses que vous connaissez, que vous savez qu'elles traînent là depuis des années. Et que si vous vous laissez conduire par l'esprit, elles vont commencer à changer. Et ce qui va se passer, c'est que votre vie va s'apaiser. Votre vie va se canaliser. Parce que nous avons tous besoin de discipline. Parce que nous avons tous besoin de routine. Parce que le monde, la vie dans laquelle nous existons est une vie cyclique. Tout recommence tout le temps. Les saisons, les jours. Cultiver, planter son jardin, retourner au travail, se brosser les dents, se laver, dormir, manger. Nous ne pouvons pas fuir cette réalité. Et si nous dépensons tant d'énergie à la fuir, elle ne fera que nous rattraper et nous feront que nous détruire. Mais si nous rentrons dans une collaboration avec cet esprit qui va nous conduire à une vie autre, alors nous connaîtrons les transformations. Et ce qui se passera, c'est que vous aurez envie d'en parler de ces transformations à des gens autour de vous. Tu sais, depuis que je suis chrétien, tu sais, depuis que je prie le Seigneur, il se passe ça. Avant, j'y arrivais pas. Maintenant, je. Avant, je pensais comme ça. Maintenant, je. Et vous allez témoigner, juste parce que c'est trop cool d'être transformé par le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que votre vie va devenir un long fleuve tranquille. Vous aurez des épreuves, vous aurez des casses. Vous aurez des déchirements, des blessures, des maladies. Vivre par l'esprit ne nous évite pas ça. Vivre par l'esprit nous permet de traverser ces choses d'une façon féconde. Pensez à Guillaume. Il vient ici, il témoigne. La façon dont il traverse son épreuve vous édifie, nous édifie. Étonnant. Je termine. Dans l'Épître aux Galates, Non, c'est pas aux Galates, c'est aux Philippiens. Ah si, c'est Galate. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est l'inconduite, l'impudicité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, l'orgie, toutes ces choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Amen. Nous prions. Seigneur, merci parce que tu es venu devenir un humain en Jésus-Christ. Et une fois que tu as embrassé pleinement cette humanité, nous quoi, tu es remonté dans les cieux et tu t'es assis sur le trône, en chair et en os, afin qu'un humain règne sur le monde. Et ainsi, Seigneur, tu as tourné le royaume des cieux en notre faveur. Nous y sommes attendus, nous y sommes les bienvenus. Plus encore, Seigneur, puisque tu n'étais plus là avec nous sur terre, tu as envoyé ton esprit faire sa demeure en nous afin que nous t'ayons avec nous partout où nous sommes. Seigneur, nous ne prenons pas la mesure, nous ne prenons pas la mesure de ce que cela signifie que d'être habité par ce feu divin. Mais de la même façon que cet Esprit Saint a transformé un monde sec, vide, absurde, dans le monde que nous connaissons autour de nous, quand nous contemplons cette nature, tes œuvres puissantes, le cosmos, les étoiles, l'univers. Seigneur, aide-nous à ne plus jamais douter que ce que tu veux faire de nos vies, c'est quelque chose d'aussi merveilleux, dans le plus profond de nos cœurs. Apprends-nous à marcher par l'Esprit. Apprends-nous à marcher à ta suite. Apprends-nous à nous laisser façonner, à nous laisser discipliner par toi. À nous soumettre volontairement, Seigneur, à ton rythme de vie. Viens reconquérir, Seigneur, tous ces lieux que nous avons abandonnés, ces lieux où nous désespérons de faire quelque chose de bien. Viens ranger nos vies. Viens nous apprendre à distinguer les choses, à les renommer, de sorte que, Seigneur, nous régnions sur nous-mêmes en te laissant régner en nous. Merci, parce que tu ne manques pas de patience et de persévérance envers nous, et que chacun de nous, où tu as commencé ton œuvre en y déposant cet Esprit Saint, tu l'achèveras certainement. Alors gloire te soit rendue, Seigneur, et sois béni encore pour ta bonté. Amen.